Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bien que nous soyons au mois de novembre, nous avons choisi avec Antiquissimo et Claude Aziza, que je salue. Bonjour Claude Aziza.
Bonjour.
Nous avons donc choisi d'évoquer la mémoire d'un immense acteur américain, Charles Aniston, qui a une carrière énorme, mais bien sûr, de cette carrière, nous allons extirper ce qui concerne l'Antiquité. Alors, 4 octobre 1923, c'est pour ça que son anniversaire cette année était à souligner, à fêter. Et 5 avril 2008, il est mort à 81 ans, après, je l'ai dit, une carrière vraiment plus que remplie. Donc, il aurait eu 100 ans le 4 octobre 2023. Il avait tout joué. Et après un apprentissage dans les années 40 à la télévision, il avait débuté au cinéma avec un court-métrage absolument pas connu, un petit film de 16 mm, déjà appelé Jules César. Je dis déjà parce qu'on va voir que cette période de l'histoire est importante pour lui, de l'Antiquité. Et puis, à partir de ce petit film au cinéma, ce Jules César, il va, et c'est lui-même qui le dit dans les nombreux entretiens qu'il donne ici et là, il se fixe une ligne de conduite que certains pourraient peut-être essayer de suivre, c'est-à-dire, quelle que soit son expérience, à soi, acteur, une fois que le réalisateur est aux commandes, c'est lui et lui seul qui doit commander. Est-ce que je me trompe, Claude Aziza, en dressant ce premier petit aspect de sa personnalité, c'est-à-dire son humilité, finalement?
Pas du tout. Vous avez tout à fait raison. Et pour Charlton Heston, contrairement d'ailleurs à peut-être à ce que pensaient les acteurs de son époque, comme Brando, comme Newman, qui avaient joué tous dans l'Actor Studio, qui pensaient que l'acteur était quasiment l'équivalent du réalisateur, pour Charlton Heston, qui a quand même tourné avec les plus grands, et peut-être le plus grand des plus grands en ce qui concerne l'Antiquité, on y reviendra, Cecil B. DeMille, c'est le réalisateur et le seul maître à bord.
Alors, j'ai dit tout à l'heure, donc on verra aussi d'autres lignes de conduite tout à fait intéressantes, parce que j'ai la faiblesse de dire ici que c'est à la fois l'acteur, mais aussi l'homme qui nous intéresse, parce que il a une pensée, une droiture assez exceptionnelle. Alors, avant de balayer les péplums importants qu'il a joués, et qui sont en proportion peu par rapport à tous les autres grands personnages et grandes périodes incarnées, citons rapidement, quand même, pour donner une idée de la palette de cet acteur, les grands personnages historiques qu'il a joués.
Alors, si on va au-delà de l'Antiquité, on va commencer par le Moyen-Âge, le Cid, film d'Anthony Mann, Michel-Ange, un film de Carol Reed dans L'Extase et l'Agonie, Richelieu dans Les Trois Mousquetaires de Richard Lester, Clark, c'est l'homme qui avec Lewis a fait la découverte de l'Ouest, Buffalo Bill, le général et futur président Jackson dans Les Boucaniers, et enfin Gordon Pasha, le défenseur de Khartoum face aux hordes fanatiques du Mahdi dans Khartoum.
Voilà. D'accord. Donc
ça c'est les grands grands personnages. Il y en a d'autres,
oui,
mais bon.
Oui, on n'a même pas pensé ici à recenser le nombre de films qu'il a fait. C'est énorme. Alors là, ici, les péplums, ben, si j'accepte ce petit Jules César des débuts qu'on va aussitôt oublier parce qu'on ne saurait le voir, les grands péplums, c'est lesquels? C'est Moïse. Il a incarné Moïse dans Les Dix Commandements de Cecil B. DeMille. Ça, c'est 1956. En 1959, il incarne Ben-Hur dans Ben-Hur de William Wyler, et ça lui a valu l'Oscar du meilleur acteur, si je me souviens bien. Il a joué Marc-Antoine dans Jules César, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que Jules César est quelques périodes et personnages qui lui tient à cœur. Et là, nous sommes avec un film en 1971 de Stuart Burge. Antoine, à nouveau, donc Antoine ou Marc-Antoine, c'est le même. Antoine dans Antoine et Cléopâtre, une adaptation d'une pièce de théâtre, on va y revenir. Et le réalisateur, aux surprises ici, en 1972, c'est Charlton Heston lui-même. On va reparler tout à l'heure, je l'ai dit, de ce passage de l'autre côté de la caméra. Et pour terminer cette panoplie, Jean-Baptiste, c'est le personnage historique qu'il a incarné dans la plus grande histoire jamais contée de George Stevens en 1964. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Claude Aziza? C'est vous le spécialiste, ça n'est pas moi, du pépin.
Non, en ce qui concerne l'Antiquité, vous avez fait le point. Et en ce qui concerne les personnages historiques, je l'ai fait tout à l'heure, mais à toute allure, si vous voulez bien, puisqu'on va parler de Bannir, qui est un personnage de fiction, il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Ben, des personnages de fiction, il y en a énormément, énormément. Ne serait-ce que le capitaine Silver de l'île au trésor, dont le réalisateur est le propre fils de Charlton Heston, Fraser Heston, et puis surtout, peut-être, surtout, dans des films absolument extraordinaires, dont le fameux Soleil vert de Fleischer, où il joue un policier dans un New York surpeuplé, surchargé, et voilà, et puis Le survivant de Boris Sagal, où il joue encore le rôle de quelqu'un qui est là, New York est vide et totalement dépeuplé, tous les gens sont transformés en vampires, mais lui, et enfin, quand même, on ne peut pas parler de Charlton Heston sans penser à la dernière image de La planète des singes de Frank Schaffner, où il joue le rôle du cosmonaute Taylor dans un lointain futur, et une des plus belles images, il faut le dire et le répéter, du cinéma, c'est lorsqu'il arrive et qu'il voit la statue de la liberté immergée à moitié dans le sable et l'eau, et il comprend que la planète des singes, c'est la Terre, dans un futur monde. Voilà.
Et je me souviens toujours du silence qui accompagne ce plan dans la salle, quoi. Tout le monde est saisi.
C'est un des plus beaux plans qui soit de l'histoire du cinéma.
Alors, focus sur le péplum, nous l'avons dit, et donc on va s'intéresser au premier, Les Dix Commandements de Cécile B. 2000. Donc la rencontre avec ce réalisateur immense a marqué à jamais notre Charlton Heston.
Oui, alors justement, par une espèce de transition dont vous allez admirer l'habileté, nous parlions du plan final de, évidemment, La planète des singes. Oui, il faudrait peut-être parler à ce moment-là de particularités, hein, au point de vue technique, on peut le dire de temps en temps, de films comme Ben-Hur et comme Les Dix Commandements. Ben-Hur, par exemple, c'est assez extraordinaire. Ben-Hur est le film où, en une seule séquence de 11 minutes, qui est la course de char, c'est le grand plan, le plus grand nombre de plans réalisés sur une seule séquence. Ça veut dire que de deux tiers de seconde, le plan change aussi. Et on peut aussi s'apercevoir que Cécile B. 2000, sous lequel il a tourné aussi, était un homme qui était fanatique du plan.
Oui.
Ça, c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, Steven Spielberg raconte que, tout jeune, étudiant en cinéma, il a trouvé Cécile B. 2000, il a réussi à le voir. Il avait demandé des conseils et Cécile B. 2000 lui avait montré une espèce de gravure qui était sur un mur en lui disant, voyez, voilà, c'est le plan et il faut suivre la ligne de l'horizon. C'est tout, c'est ça l'art de faire du cinéma. Donc c'est important de le dire.
Bien sûr. Alors c'est dans la même ligne de mire, c'est le cas de le dire. Il a appris avec Cécile B. 2000 la règle d'or pour filmer les foules et il disait qu'il ne l'avait jamais oublié.
Oui, alors, parce que dans l'ordre chronologique, puisqu'on va suivre l'ordre chronologique ici, c'est évidemment les Dix Commandements. Maintenant, on pourrait aussi penser, puisqu'on parlait de plans, maintenant on va parler de chars, bien sûr. Or, il se trouve que par un curieux hasard, les deux passages les plus célèbres de Ben-Hur et des Dix Commandements, c'est dans Ben-Hur, tout le monde connaît la course de chars, bien sûr.
Mais on en parlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que dans les Dix Commandements, c'est justement l'ensevelissement sous l'eau des chars du pharaon. Donc d'un côté on a les chars du Romain Ben-Hur, contre lesquels, du Romain Messala, et de l'autre côté on a les chars de l'Égyptien Ramsès. Je trouve que c'est assez amusant comme coïncidence.
Alors cette règle d'or pour filmer les foules, c'est que alors qu'il y a une quantité incroyable de figurants qui sont mobilisés et une attention qu'on aurait pu penser jusqu'au bout sur tout cette abondance de figurants, eh bien il dit que pour créer du suspense, eh bien il faut arrêter justement le plan avant qu'il ne soit fini, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on doit avoir l'impression qu'on n'a pas tout vu de ce défilé.
Ça, c'est la technique de Cécile Bendemille, qu'il a employée d'ailleurs dans pratiquement tous ses films, y compris dans ses westerns. C'est-à-dire qu'on ne va jamais au bout d'un plan. Ça veut dire, finalement, en gros, c'est l'art de la frustration, comme
c'est
vous
ça.
Le pensez.
Ça.
Voilà. Ça, c'est assez, assez peu connu, finalement. Mais c'est Cécile Bendemille. Avec William Wheeler, ce sera tout à fait différent. Mais bon.
Alors, ce fameux Cécile B. 2000 dont il a beaucoup parlé, il nous raconte aussi qu'il avait l'art de donner l'impression à tous les acteurs qu'ils étaient surveillés en permanence. Et pour ça, il avait un truc infaillible, c'est-à-dire qu'au hasard, il piquait quelqu'un dans la foule et il lui, entre guillemets, excusez-moi la vulgarité, gueulait dessus en disant « ça va pas du tout », etc. De sorte que tout le monde avait l'impression qu'il voyait tout, ce qui n'était pas du tout le cas. Et en même temps, en tout cas, c'est ce que dit notre acteur d'aujourd'hui, eh bien, en même temps, il donnait aussi l'impression d'une grande liberté à chacun.
Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de signaler qu'en 1956, les 10 commandements, deux choses à dire. La première chose, c'est que c'est le remake parlant d'un film de Cécile Bendemille, toujours, qui est un film muet. Ça, c'est une première chose. Et la seconde, c'est que c'est le dernier film de Cécile Bendemille. Et il termine par, justement, c'est intéressant, parce que tout de suite après la guerre, en gros, le premier péplum, c'est Samson et Dalila de Cécile Bendemille, et finalement, son dernier film, ce sera Les 10 commandements. Alors, peut-être qu'on peut s'attarder
avec
aussi.
Moïse et le passage de la mer Rouge, chose d'assez extraordinaire.
D'assez extraordinaire, on peut peut-être s'attarder là-dessus, puisqu'on a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, un remake de Ridley Scott, des 10 commandements, qu'on a eu aussi des pastiches, notamment Anne Mel Brooks, d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, c'est que, comment Cécile Bendemille arrive à ne traiter que les épisodes principaux de la vie de Moïse. Et il les traite d'ailleurs d'une façon assez extraordinaire. Ça veut dire que le point clé, c'est au moment où Moïse s'aperçoit qu'il n'est pas égyptien, qu'il est hébreu. C'est là qu'il est là. Et il y a quand même... et où il part. Il est exilé, il va partir. Vous savez qu'il y a, dans la religion juive, on parle des trois quarantaines de la vie de Moïse. Ça veut dire que, ce qui serait assez intéressant de voir, est-ce que dans les 10 commandements, on a le film divisé en trois. Ce n'est pas le cas. Les trois quarantaines de la vie de Moïse, ça veut dire jusqu'à 40 ans, il est égyptien chez Pharaon, il prend conscience qu'il est hébreu. Pendant 40 ans, il va aller dans le désert et épouser une femme. Et donc, à 80 ans, il revient. Et les 40 dernières années, c'est la fuite dans le désert. Et vous savez très bien qu'il ne verra, il ne dira jamais en terre promise, et il va mourir justement en face de Jéricho. Voilà.
Alors, quel homme ce Moïse ? Il est temps de le quitter. On va marquer une petite pause musicale, bien dans l'ambiance, je crois. Et puis ensuite, nous irons faire un tour du côté de Bénure et la façon qu'a Charlton Heston de concevoir l'épopée. A tout de suite, Claude Aziza. sur Radio Alliance Plus, bien entendu, avec Antiquissimo, c'est évident, et avec Claude Aziza, spécialiste du péplum, que nous retrouvons avec plaisir en ce mois de novembre. Alors, nous avons entrepris de fêter le centenaire, presque centenaire, il aurait eu 100 ans en octobre 2023, avons-nous dit tout à l'heure, de Charlton Heston. Et nous évoquons donc ces péplums. Et nous parlons de Bénure, encore une épopée. Donc il est fidèle à cette notion d'épopée. Il dit à quel point ça lui est cher. Il dit que l'épopée, c'est un style, c'est un costume. Et justement, il préconise que lorsqu'on joue dans une épopée, on mette le costume bien avant le tournage et bien après pour être carrément bien à l'aise dedans et s'être fait à son costume. Il dit aussi que l'épopée, c'est un langage, c'est une façon de parler. Et il va essayer, en se servant de son expérience théâtrale des débuts, justement d'utiliser, alors c'est de l'anglais bien entendu, ce n'est pas des langues anciennes, mais de retrouver un certain phrasé qu'il juge adapté à l'épopée. Alors parlez-nous de Bénure, donc Claude Aziza.
Alors Bénure, on en a parlé et reparlé, bien entendu.
Donc troisième adaptation filmique, c'est ça ?
Filmique, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, le Cécil Bellemare, le Dix Commandements, reprend quasiment une adaptation qui date de 23, et que Bénure reprend une adaptation qui date de 25 et qui va clore le grand cycle antique du muet. Voilà, ça c'est un premier lien, si vous voulez. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si les Dix Commandements sont tirés de la Bible, Bénure est tiré d'un roman.
Voilà.
On ne peut pas croire que ce soit un personnage historique, c'est un personnage de fiction. C'est un roman de 1880, d'un personnage assez extraordinaire, s'appelle Lewis Wallace, qui a été général de la guerre de sécession, gouverneur du Nouveau-Mexique, ambassadeur des États-Unis en Russie. Bon, ce n'est pas rien. Lequel Lewis Wallace, d'ailleurs, avait fait un roman sur la vie de Moïse. C'est encore une coïncidence assez intéressante. Alors ça, c'est le contexte de Bénure. Bénure est tourné par
En fait, dans ses assistants, il y a un petit débutant.
Oui, alors on va voir ça. Et après, Bénure est tourné par quelqu'un qui, comment dire, n'est pas un grand réalisateur. Il fait partie de ces réalisateurs qui, de temps en temps, trouvent une inspiration, puis ensuite la retrouveront jamais. Il s'appelle William Wheeler, c'est un Français d'origine alsacienne, si je ne m'abuse. Et ça, c'est amusant, c'est qu'il a tourné dans le Bénure de 1925, il était...
Dans les décors, alors ?
Non, il a tourné comme,
ah bon, d'accord.
Comme assistant du réalisateur Fred Niblo.
D'accord.
Et c'est lui qui a tourné La course de chat, qui est magnifique. Mais il en était tellement traumatisé que lorsqu'on lui a demandé de tourner le Bénure, il a mis par contrat qu'il tournerait tout, sauf La course de chat.
Ah oui.
Donc La course de chat n'a pas été tournée par William Wheeler. Elle a été tournée par un spécialiste qui s'appelle Andrew Martin, qui a tourné, mais en même temps, ce spécialiste avait demandé un petit jeune qui traînait là, parce que son père était un réalisateur italien très connu, qui tournait là, et qui s'appelait Sergio Leone. Et Sergio Leone avait été chargé de plusieurs choses, donc il était l'assistant de Martin, et c'était lui qui avait cherché dans le gratin international et italien tous les spectateurs que vous voyez sur les bancs.
Et oui, parce que ça s'est tourné à Cinecittà.
Voilà. Et donc, quand vous voyez les spectateurs, c'est le comte, la comtesse, tout ça, c'est assez
C'est le gratin, bizarre. Quoi.
Voilà, c'est le gratin, comme on peut dire. Bon. Et cette course de chars, sur laquelle on a écrit quasiment des livres entiers, posait des problèmes incommensurables. Donc, je vous l'ai dit, c'est une séquence de 11 minutes. Alors, tous les problèmes, je vais vous donner quelques chiffres quand même, parce que...
Oui, c'est fantastique. Hein.
Alors, donc, les pistes avaient... des pistes qui avaient 8 hectares autour de Cinecittà.
Ce qui est énorme. Hein.
1000 km de long pour les pistes. 4 statues de 30 mètres. Les figurants,
de 30 mètres de haut.
Les figurants, c'est pas... On hésite entre 6 000 ou 15 000.
Pas tout à fait pareil, mais en fait, c'est beaucoup.
Personne ne peut le dire.
Oui.
1200 mètres cubes de bois, 500 tonnes de plâtre, 40 000 tonnes de sable blanc, 400 km de tubes métalliques. Alors, pour préparer une course de chars, ce n'est pas facile. Le problème, vous ne le savez peut-être pas, c'est le revêtement. Alors, on a essayé d'avoir un revêtement totalement catastrophique, qui est, en gros, mettre deux revêtements, c'est-à-dire une couche de pierre broyée, et dessous une couche, en gros, une espèce de couche de lave broyée. Et puis les chars ne pouvaient pas rouler, donc on a la course de chars s'est déroulée sur un revêtement qui fait de 4 cm en lave broyée. On a construit
18 chars.
6 mois, 18 chars, 9 pour la course, 9 en réserve. 6 mois. Il y avait 82 chevaux. Et puis, entre entraîneurs, selliers, vétérinaires, gardiens d'écurie, il y avait 20 personnages. Donc voilà, ça c'est la course de chars.
On imagine que ça s'est préparé bien en amont du tournage.
Bien sûr. Alors, autre chose, du point de vue technique, on avait pour l'époque une nouvelle caméra de 65 mm. Et cette nouvelle caméra, elle était obligée, avec un objectif de 140 mm, de filmer de très près. Or, filmer de très près posait énormément de problèmes parce qu'on avait trois caméras fixes qui ne bougeaient pas, qui filmaient sous trois angles, ça c'est une chose. Des caméras automatiques étaient filmées sous les chars, ce qui avait été dans le premier bannure, sauf qu'au bout de quelques secondes, elles étaient pleines de poussière, on ne voyait plus rien. Et devant les chars, des camions avec plateau fixe pour les travelling. Or, le drame, ça, c'est que le camion doit rouler devant le char. Et si par hasard le camion est obligé de freiner, le chat s'emboîte dans le camion. Mais là, il n'y a pas eu d'accident.
Non, et notre Charlton Heston, lui, voilà. Comme il s'est un habitué de western, il n'a eu aucun souci. Ouais,
mais Stephen Boyd, que jouait Messala, s'en est très mal tiré. Alors les chars.
Il est tombé, lui, je crois. Hein.
Oui, vous ne savez pas comment ça se passe pour les chars. Ça veut dire qu'on a des freins hydrauliques. Donc à un moment donné, les conducteurs renversent le char et il y a des petites charges de dynamite qui pulvérisent les roues. Et tout ça s'en va à l'air. Donc. Easton et Boy ont filmé tout le temps, n'ont jamais été doublés, sauf à deux moments particulièrement difficiles. Et Charlton Heston, il avait tourné tellement de peplum et de western, j'oublie de dire les westerns, bien sûr. Voilà, et donc il n'y a pas eu d'accident, tout s'est bien passé. Et cette course de char est vraisemblablement. Et
elle dure quand même 11 minutes, je crois.
Elle dure 11 minutes.
C'est énorme.
11 minutes, c'est la plus belle, sans doute, course de char de l'histoire. Il y en aura d'autres.
Il y aurait tellement de choses à dire encore, mais il nous reste peu de temps. Et il nous faut parler des deux films avec Antoine. Deux films dont vous me disiez hors antenne qu'on aurait du mal à les voir.
Mais c'est-à-dire que ces deux films. Les deux sont tirés de la pièce de théâtre de Shakespeare, hein, le Antoine et Cléopâtre et le Jules César de Shakespeare, bien sûr. Or, c'est là où Charlton Heston a pu montrer ses talents d'acteur de théâtre. Alors, le premier film est tout à fait visible, hein, est intéressant. Alors, il faudrait le comparer avec le Jules César de Mankiewicz. Bon. Mais le second film est inédit en France.
Et d'après, donc celui qu'a réalisé
Celui qu'il a réalisé, d'après les échos que j'en ai eus, il a été assez mal accueilli par la critique. Et peut-être est-ce cela qui a fait qu'au fond, Charlton Heston n'a pas persévéré, contrairement à Clint Eastwood, par exemple, n'a pas persévéré dans le rôle de réalisateur.
Alors après, bon, ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, il est devenu producteur, il avait d'autres cordes à son arc, mais nous, c'est l'acteur qui nous intéresse ici, et c'est quand même assez énorme qu'à plusieurs reprises, il incarne le même personnage, en fait.
Deux fois ?
Oui.
Oui, Antoine.
Oui, oui.
Antoine. Mais voilà.
Alors, il nous reste un petit peu de temps, et j'y tenais tout de même, pour parler de Jean-Baptiste, le personnage qu'il va camper dans le dernier péplum à évoquer aujourd'hui.
Oui. Alors, c'est un... Comment dire ? Dans les années 60, entre 60 et 65, 68, vous avez beaucoup de films sur la vie de Jésus-Christ.
Donc là, c'est la plus grande histoire jamais contée.
C'est la plus grande histoire jamais contée de George Stevens. Et il y a beaucoup de films, des Italiens comme le Jésus de Nazareth de Zeffirelli, et puis le Roi des Rois de Nicolas Ray, et la plus grande histoire jamais contée de Stevens. Alors, C'est un film de 64. Stevens, c'est pas non plus un bon réalisateur. Mais il a quand même réussi à faire une belle vie de Jésus. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que Charlton Heston joue le rôle du baptiste, c'est-à-dire Jean-Baptiste, celui qui va baptiser Jésus, qui ensuite, scène qu'on ne voit pas d'ailleurs, sera décapité sur l'ordre de Salomé.
Si vous
voulez. Donc, il va jouer une espèce de... C'est intéressant parce que il aura quelque chose qui ressemble à Moïse dans le désert, sauf qu'il est, évidemment dans le Jourdain et qu'il joue une espèce de sauvage. Mais je vous rappelle qu'on est en 64 et qu'il a encore 40 ans à jouer d'autres rôles. Mais il semble bien que sa carrière historique, biblico-romaine, s'arrête là. Voilà. Pourquoi n'a-t-il pas été au-delà ? C'est qu'il avait tellement de propositions et qu'il a eu tellement de rôles que peut-être finalement, au fond, ce qu'on gardera de lui, ce sera vraisemblablement Moïse et Ben-Hur, je pense. Et la course de chars. Et les deux. Enfin, la course de chars. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de parler des trucages. Des trucages des 10 commandements. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, quand on voit d'ailleurs le film de Ridley Scott, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Cécile Benmin montre ses trucages. C'est une coquetterie de Cécile Benmin. Lui, quand il a des trucages, il ne veut pas les masquer. Il les montre avec des transparents, des scènes, etc. Ce qui rend d'ailleurs le film maintenant encore
plus intéressant.
Et tout à fait visible, comme le Ben-Hur de...
Alors, on ne saurait trop vous conseiller de retourner voir ces films chez vous ou en salle, si c'est possible, et de vous régaler à admirer Charlton Heston. Merci, Claude Aziza.
Merci à vous.
Soutenez notre association en adhérant sur radioalliance+.fr.